Souvent, lorsqu'il y avait des visites chez nous, on disait que les Chulins se restreignaient. Le grand manoir avait brûlé voici quelques années, et à présent, ils habitaient les deux ailes latérales et se restreignaient. Mais ils avaient dans le sang l'habitude de recevoir des invités, et ils ne pouvaient renoncer à cela. Lorsque quelqu'un venait chez nous de façon tout à fait inattendue, il venait probablement de chez les Chulins. Et si quelqu'un regardait tout à coup sa montre et s'en allait avec un air effrayé, c'était sûrement qu'il était attendu à Listagger. À la vérité, maman n'allait déjà plus nulle part, mais cela, les Chulins ne pouvaient le comprendre. Il n'y avait pas d'autre solution, il fallait y aller un jour ou l'autre. C'était en décembre, après quelques précoces chutes de neige. Le traîneau était commandé pour 3 heures, je devais être de la promenade. Mais on ne partait jamais de chez nous à l'heure précise. Maman, qui n'aimait pas qu'on annonçât la voiture, descendait le plus souvent beaucoup trop tôt. Et lorsqu'elle ne trouvait personne, elle se rappelait toujours quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps, et elle commençait à chercher ou à ranger je ne sais quoi, tout en haut de la maison, si bien qu'il n'y avait presque plus moyen de l'atteindre. Finalement, nous étions tous là debout, et nous attendions. Et lorsqu'enfin elle était assise et empaquetée, on découvrait encore qu'on avait oublié quelque chose et il fallait faire chercher Siversen. Car Siversen seul savait où cela se trouvait. Mais ensuite, on débarrait brusquement, avant même que Siversen fût revenu. Ce jour-là, il n'avait pas du tout fini par faire clair. Les arbres étaient là, comme empêchés d'avancer dans le brouillard, et il y avait de l'entêtement à vouloir quand même entrer là-dedans. La neige, cependant, recommençait à tomber en silence, et à présent, c'était comme si tout jusqu'au dernier trait avait été effacé, comme si l'on conduisait dans une page blanche. Il n'y avait rien que le son des grelots, et l'on aurait pu dire exactement où il se trouvait. Vint un instant qu'il cessa même, comme si le dernier grelot avait été dépensé. Mais ensuite le tintement se rassembla de nouveau et fut d'accord, et de nouveau se répandit hors de l'abondance. Le clocher à gauche, on pouvait l'avoir imaginé, mais le contour du parc était soudain là, haut, presque au-dessous de nous, et l'on se trouvait dans la longue avenue. Les grelots ne se détachaient plus complètement. C'était comme s'ils s'étaient accrochés par grappes à gauche et à droite aux arbres. Puis l'on vira et l'on tourna autour de quelque chose à droite et l'on s'arrêta au milieu. Georges avait complètement oublié que la maison n'était plus là et pour nous tous, elle fut là en cet instant. Nous montâmes le perron qui conduisait sur l'ancienne terrasse et nous étions tous étonnés qu'il fût si sombre. Subitement, une porte s'ouvrit à gauche, derrière nous, et quelqu'un cria « Par ici !» leva et agita une lumière embuée. Mon père rit « Nous errons ici comme des fantômes !» et il nous aida à redescendre les marches. « Mais il y avait cependant tout à l'heure une maison ici, » dit maman. Elle ne pouvait pas s'habituer si vite à Viera Chulin qui venait d'accourir, toute chaude et riante. Et bien entendu, il fallait tout de suite entrer, et il n'était plus question de penser encore à la maison. On vous débarrassait dans un vestibule étroit, et voici qu'on était soudain au milieu des lampes et en face de la chaleur. Ces Chulin étaient une puissante famille de femmes autonomes. Je ne sais pas s'il y eut jamais des fils de cette race. Je ne me souviens que de 3 sœurs. De l'aînée, qui avait épousé un marquis napolitain et qui, à force de procès, n'en finissait pas de divorcer. Puis venait Zoé, dont on disait qu'il n'y avait rien au monde qu'elle ignorât. Et surtout, il y avait Viera, cette chaude Viera. Dieu sait ce qu'elle est devenue. La comtesse, une narichkine, était en réalité la 4e sœur et à certains égards la plus jeune. Elle ne savait rien et ses enfants devaient sans cesse la renseigner. Et le brave comte Chulin se croyait presque marié à toutes ses femmes. Il allait, venait et les embrassait un peu au hasard. Il rit d'abord très fort et nous salua avec une attention minutieuse. Les femmes me faisaient circuler d'une main dans l'autre, l'on me palpait et l'on m'interrogeait. Mais j'étais fermement résolue à m'échapper aussitôt après, de quelque façon que ce fût, et à me mettre à la recherche de la maison. J'étais convaincue qu'aujourd'hui elle était là. Il ne m'était pas très difficile de quitter la chambre. Entre tant de robes, on pouvait se faufiler, très bas comme un chien, et la porte du vestibule n'était qu'appuyée. Mais dehors, la porte extérieure ne voulait pas céder. Il y avait là plusieurs mécanismes, des chaînes et des verrous, que dans ma hâte je maniais maladroitement. Subitement, elle s'ouvrit quand même, mais en faisant un grand bruit, et avant que je fusse dehors, je me sentis retenue et ramenée en arrière. « Halte là, le fuyard, ici on ne prend pas la clé des champs, » dit Viera Chulin d'un air amusé. Elle se pencha sur moi, et j'étais bien décidée à ne rien trahir à cette chaude et riante personne. Mais comme je ne disais toujours rien, elle supposa délibérément qu'un besoin naturel m'avait poussée à la porte. Elle prit ma main et marchait déjà, et d'un air où il y avait une part de privauté et une part de fierté, voulut m'entraîner je ne sais où. Ce malentendu intime me blessa au-delà de toute mesure. Je me dégageais et la regardais d'un air colère. « C'est la maison que je veux voir, » dis-je avec orgueil. Elle ne comprenait pas. « La grande maison dehors, près de l'escalier. »« Petite âne, » dit-elle, et tenta de m'attraper. « Il n'y a plus de maison là-bas. » Je persistais. « Nous irons une fois deux jours, » proposa-t-elle, conciliante. « On ne peut pas y traîner à cette heure-ci. Il y a des trous. » Et en arrière sont les viviers de papa qui ne doivent jamais geler. Tu tomberas à l'eau et tu seras changé en poisson. » En même temps, elle me poussait devant elle, vers les chambres éclairées. Ils étaient tous assis là et je les regardais l'un après l'autre. « Ils n'y vont bien entendu que lorsqu'elle n'est pas là, » songeais-je avec mépris. « Si maman et moi habitions ici, elle serait toujours là. » Maman paraissait distraite, tandis que les autres parlaient tous à la fois. Elle pensait sûrement à la maison. Zoé s'assit à côté de moi et me posa des questions. Elle avait un visage bien ordonné, où l'intelligence se renouvelait de temps en temps, comme si elle ne cessait de comprendre. Mon père était assis, le corps légèrement incliné à droite, et écoutait la marquise qui riait. Le comte Chulin était debout entre maman et sa femme et racontait quelque chose. Mais je vis la comtesse l'interrompre au milieu d'une phrase. « Non, mon petit, c'est une idée, » dit avec bonhomie le comte. Mais lui aussi prit tout à coup un visage inquiet qui s'avançait au-dessus des deux dames. On ne pouvait cependant faire renoncer la comtesse si facilement à cette idée. Elle semblait toute tendue, comme quelqu'un qui ne veut pas être dérangé. Elle faisait de petits signes de défense de ses molles mains baguées. Quelqu'un fit « Sst !» et un silence se fit tout à coup. Derrière les hommes, les grands objets de la vieille maison se poussaient beaucoup trop près. La lourde argenterie de famille brillait et se bombait comme si on l'avait vue à travers une loupe. Mon père se retourna, surpris. « Maman sent une odeur, » dit Viera Chulin derrière lui. « Taisons-nous bien tous, » elle sent avec ses oreilles. Elle-même, cependant, arquait ses sourcils, attentive, et n'était plus que née. Les Chulins, à cet égard, étaient devenus un peu bizarres depuis l'incendie. Dans les chambres étroites et surchauffées, quelque odeur pouvait s'élever à tout moment, et alors on l'analysait et chacun donnait son avis. Zoé s'occupait du poêle, pratique et consciencieuse. Le comte allait et venait, s'arrêtait un instant dans chaque angle de la chambre et attendait. « Ce n'est pas ici, » disait-il ensuite. La comtesse s'était levée et ne savait pas où elle devait chercher. Mon père tourna lentement sur lui-même, comme s'il avait eu l'odeur dans le dos. La marquise, qui avait aussitôt supposé que ce devait être une mauvaise odeur, tenait son mouchoir sur la bouche et regardait de l'un à l'autre pour savoir si c'était passé. Ici, ici! S'écriait Viera de temps à autre, comme si elle la tenait. Et autour de chaque mot se faisait un étrange silence. En ce qui me touche, j'avais de concert avec les autres bravement exercé mon odorat. Mais tout à coup, était-ce la chaleur des chambres ou tant de lumière si proche? Je me sentis pris pour la première fois de ma vie d'un sentiment qui devait ressembler à la peur des fantômes. Il m'apparut clairement que tous ces grands hommes si évidents, qui un instant plus tôt parlaient et riaient encore, marchaient courbés et étaient occupés de je ne sais quoi d'invisible, qu'ils admettaient qu'il dût y avoir là quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Et il était affreux de penser que cette chose était plus forte qu'eux tous. Ma peur grandissait. Il me semblait que ce qu'il cherchait pourrait éclater soudain hors de moi comme une éruption, et alors il le verrait et tendrait le doigt vers moi. Tout désespéré, je dirigeais mon regard vers maman. Elle s'était assise singulièrement droite. Il me sembla qu'elle devait attendre. À peine étais-je près d'elle et eus-je senti qu'elle tremblait intérieurement, que je sus que la maison à présent commençait de nouveau à fondre. Malte, Froussard, riait-on quelque part. C'était la voix de Viera. Mais nous ne nous abandonnâmes pas, et nous souffrîmes ensemble le même mal, et nous demeurâmes ainsi, maman et moi, jusqu'à ce que la maison se fût de nouveau évanouie. Mais les jours les plus riches en expériences presque insaisissables étaient encore les jours d'anniversaire. Sans doute savait-on déjà que la vie se plaisait à ne pas faire de différence. Pour ce jour-là, cependant, on se levait avec la conscience d'avoir droit à la joie, un droit qui ne pouvait plus être remis en question. Sans doute le sentiment de ce droit s'était-il développé très tôt en nous, dans le temps où l'on touche à tout, où l'on reçoit vraiment tout, où l'on hausse les objets que l'on se trouve avoir en main avec une force d'imagination que rien ne saurait faire dériver, jusqu'à l'intensité et à la couleur fondamentale du désir qui justement domine en nous. Mais ensuite viennent tout à coup ces singuliers jours d'anniversaire où, dans la sûre et pleine conscience de ce droit acquis, l'on voit les autres devenir incertains. On voudrait se laisser habiller comme autrefois et puis accueillir le reste. Mais à peine est-on éveillé que quelqu'un crie dehors que la tarte n'est pas encore arrivée. Ou bien l'on entend qu'un objet se brise, tandis que dans la chambre contiguë, ils apprêtaient la table garnie de cadeaux. Ou bien quelqu'un entre et laisse la porte ouverte, et l'on voit tout avant que l'on eût dû le voir. C'est l'instant où s'accomplit en vous comme une opération, un toucher bref et atrocement douloureux. Mais la main qui l'exécute est ferme et exercée. C'est tout de suite fini. Et à peine l'a-t-on surmonté que l'on ne pense déjà plus à soi-même. Il s'agit de sauver l'anniversaire, d'observer les autres, de prévenir leurs fautes, de les confirmer dans leur illusion qu'ils s'acquittent de tout admirablement. Ils ne vous rendent pas votre tâche facile. Il apparaît qu'ils sont d'une maladresse sans exemple, presque stupide. Ils trouvent moyen d'entrer avec des paquets quelconques destinés à d'autres gens. On court à leur rencontre et l'on doit ensuite faire semblant de tourner simplement dans la chambre pour se donner du mouvement et sans but précis. Ils veulent vous surprendre et avec une curiosité et une attente qui ne sont que superficiellement feintes, ils soulèvent la couche intérieure des boîtes de jouets qui ne contenaient que des copeaux. Alors il faut les aider à surmonter leur gêne. Ou encore, si c'était un jouet mécanique, ils brisent eux-mêmes le ressort de leur cadeau en le remontant trop. Il est donc bon de s'exercer à temps, à pousser au besoin du pied, sans qu'il y paraisse, une souris dont le cran d'arrêt a été dépassé. On réussit souvent ainsi à les tromper et à leur épargner la honte. Cela d'ailleurs, on y parvenait à souhait, même sans don particulier. Du talent, il n'en fallait vraiment que lorsque quelqu'un s'était donné du mal et apportait, débordant d'impatience et de bonhomie joviale, un plaisir, et de loin déjà, l'on voyait que ce plaisir n'était bon que pour tout autre que pour vous, que c'était un plaisir tout à fait étranger. On ne savait même pas à qui il aurait pu convenir, tant il était étranger.